It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité des grands championnats européens. Je suis Arthur Maire, journaliste à Eurosport, très content de vous retrouver ce lundi pour cette émission, encore une fois, très dense. On va commencer en Ligue 1, puisque le PSG a décroché son 12e titre de champion de France ce week-end, dans une 31e journée complètement folle et très riche en buts. On va analyser tout ça avec Elton Mokolo, qui va aussi évidemment se projeter avec nous sur cette demi-finale aller de Ligue des Champions qu'attend le Paris Saint-Germain à Dortmund. Ce sera mercredi, on va décortiquer tout ça. On va le décortiquer aussi côté allemand avec David Lortolari, qui va nous en dire plus sur ce BVB et son évolution depuis la phase de poule, puisque les deux équipes s'étaient rencontrées en poule. Comment va Dortmund ? A-t-il changé ? On va demander ça à David, qui va aussi nous parler de l'incroyable Leverkusen, qui n'en finit plus d'arracher des égalisations et d'étendre sa série d'invincibilité. Et puis, comment ne pas parler de Première Ligue, pour terminer avec Philippe Auclair, qui va encore et toujours nous raconter cette passionnante course pour le titre. Liverpool est décroché, on va voir comment la formation d'Jürgen Klopp a plongé, avec notamment un conflit entre l'entraîneur allemand et Mohamed Salah, et puis comment Arsenal et City, eux, continuent de se tirer la bourre. C'est passionnant et on en parle avec Philippe. Le rappel est toujours le même, vous pouvez retrouver Tour d'Europe sur toutes vos plateformes de podcast en tapant Eurosport Football Club, et puis vous retrouverez les meilleurs moments de l'émission sur eurosport.fr en vidéo. Voilà, on est bon, on peut y aller. On commence donc ce Tour d'Europe en Ligue 1, cette Ligue 1 très riche en enseignements, en actualité ce week-end, et surtout très riche en buts. On rejoint notre spécialiste du foot français, Elton Mokolo, pour parler de tout ça. Salut Elton, on s'est régalé ce week-end, on va commencer par là, cette journée riche en buts, 40 en tout sur les 9 matchs de cette 31e journée. Je vais te donner une stat avant de te lancer. Toutes les équipes ont marqué dans cette journée. C'est la première fois que ça arrive depuis la quatrième journée de la saison 1976-1977. Elton, qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée ?
Salut Arthur, c'est une journée qui a été tout simplement historique. Le terme n'est absolument pas galvaudé, eu égard à la stat que tu viens d'avancer. Bah là, pour le coup, on est sur les dernières journées de Ligue 1 et il y a des équipes qui doivent aller chercher des points, qui doivent aller chercher un classement. Il y a des équipes qui doivent se maintenir. Et j'ai le sentiment, j'ai la conviction que ça s'est ressenti depuis vendredi avec le match nul Montpellier-Nantes jusqu'à hier soir avec la victoire marseillaise dans les dernières minutes. Et là, pour le coup, c'est vraiment une journée qui a été plus qu'incroyable. Ça a été une journée qui a été incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait l'enchaînement Rennes-Brest. On se dit, c'est terminé, on vient de sortir d'un match de fou. Et 10 secondes plus tard, il y a l'ouverture du score pour Monaco. On se dit, on va encore passer une soirée de folie. Et ça s'est encore confirmé. Donc, on a vraiment une journée qui a été historique, qui a été incroyable. Tous les termes, entre guillemets, qualitatifs, amélioratifs qu'on peut utiliser pour évoquer la Ligue 1.
D'ailleurs, Lyon-Monaco avait à peine terminé, on avait à peine eu le temps de zapper, qu'il y avait déjà Aubameyang qui avait ouvert le score, mais pour une rencontre un peu plus calme à l'arrivée contre Lens. Évidemment, quand même, Elton, l'enseignement majeur de cette journée de Ligue 1, c'est le 12e titre de champion de France de l'histoire du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Elton, de ce nouveau sacre parisien ? Est-ce qu'il diffère de certains autres ? Voilà, qu'est-ce qui ressort selon toi ?
Alors, c'est vrai que le football, c'est très fragile et l'histoire, faut toujours être précautionneux. Et quand on parle de ce nouveau titre de champion de France pour le PSG, j'ai l'impression que c'est le changement dans la continuité. Mais quel changement quand on parle du PSG de Luis Enrique ? Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'à la différence de l'année dernière, où c'était davantage les individualités qui brillaient, là, c'est l'équipe qui a brillé. Alors oui, Kylian Mbappé sera toujours un joueur fondamental, sera toujours un joueur majeur, la pierre angulaire du PSG. Mais j'ai le sentiment qu'il y a eu d'autres acteurs qui ont eu leur mot à dire sur cette saison couronnée de succès pour le PSG en ce qui concerne la Ligue 1. Et je vais m'avancer, mais C'est un nouveau départ pour le PSG. C'est clairement un nouveau départ avec ce titre qui a été validé, mais qui te fait dire que le PSG de Luis Enrique est sur la bonne direction et sur le bon chemin et que ça a été matérialisé par ce titre en attendant d'autres, parce qu'il ne faut pas oublier que le PSG est non seulement en course pour un triplé, voire un quadruplé si on ajoute le trophée des champions. Donc pour moi, c'est un titre de champion de France qui signifie un nouveau départ, même si encore une fois, avec le football, il faut être très précautionneux.
Effectivement, fin de saison potentiellement folle pour Paris avec les demi de Ligue des Champions qui s'approchent. Si on fait le bilan, on est sur le 10e titre du PSG sous QSI, c'est le 3e de suite. À l'échelle nationale, c'est 32 trophées depuis l'arrivée du Qatar à la tête du PSG. Sur cette période, on a eu quelques rebelles, Montpellier en 2012, Monaco en 2017, Lille en 2021, qui ont été sacrés champions de France. Elton, est-ce que selon toi, dans la Ligue 1 actuelle, il y a une équipe qui a un profil pour refaire ce coup-là à court, moyen terme? Si oui, laquelle?
Déjà, tu as évoqué Montpellier 2012, Monaco 2017, Lille 2021. On est sur des cycles tous les 4-5 ans, le PSG perd le titre. Ce qui m'amène à penser que l'année prochaine, le PSG ne sera pas champion de France. Donc, je vais aller répondre à ta question. Moi, je pense que l'équipe calibrée pour aller chercher le PSG encore plus sans Kylian Mbappé, ça peut être Lille. Mais Lille, je mets un astérisque à partir du moment où c'est conditionné au maintien ou non de Paulo Fonseca, qui, comme vous le savez, est en fin de contrat. Et moi, j'ai le sentiment, d'ailleurs, pour avoir été avec Olivier Létang face à Aston Villa, que c'est beaucoup plus qu'une équipe, c'est un projet. C'est Arrigo Sacchi qui le disait dans son livre, dans son autobiographie, on joue comme on s'entraîne comme on est dirigé. Et j'ai le sentiment que tout est axé terrain en ce qui concerne Lille, l'optimisation des profils, la recherche notamment à travers Mercato, la logique interne avec le centre de formation, tous ces éléments me font penser que Lille peut refaire ce qu'ils ont fait en 2021 et que je suis très curieux à l'idée de savoir ce qu'ils vont faire cet été, est-ce qu'ils vont comment ils vont remplacer potentiellement Jonathan David? Est-ce qu'ils vont avoir Paulo Fonseca? Mais toujours est-il que pour moi, Lille est l'équipe la plus calibrée parce que j'aurais été tenté de dire Monaco, mais Monaco, c'est un projet qui est beaucoup plus volatile. À partir du moment où il y a une logique de revente-achat, à partir du moment où à 18h, il faudra voir ce qu'il va faire sur une deuxième saison. L'Olympique de Marseille, il y a énormément de problèmes. Donc, difficile de s'avancer et c'est pour ça que je mettrais Lille, qui me paraît être l'équipe la plus calibrée, parce que eux, pour le coup, ils l'ont déjà fait.
Tu parlais très brièvement, tu as parlé de Kylian Mbappé qui sera parti la saison prochaine. Est-ce que justement ça, c'est un argument éventuellement pour qu'on ait une Ligue 1 un peu plus serrée dans sa course au titre? Est-ce que le PSG sans Mbappé, ce sera automatiquement un PSG moins ultra dominant? Ou est-ce que la force collective qui est en train de développer Luis Enrique dans cette équipe va compenser ce départ majeur et un PSG qui sera finalement sans grosse, grosse star?
C'est un PSG qui va devoir se redécouvrir. Et c'est peut-être ça le plus dangereux dans une équipe de très haut niveau, se redécouvrir. Parce que on le voit, on peut dire ce qu'on veut. Oui, il y a une force collective qui commence à se dégager du côté du PSG. Mais je reste persuadé que le but reste le meilleur entraîneur au monde, le meilleur entraîneur du monde. Et Kylian Mbappé en a mis énormément. Kylian Mbappé a quand même mis 26 buts en Ligue 1. Donc ça, il va falloir le compenser. Il va falloir, entre guillemets, démocratiser le but. Il va falloir attendre beaucoup mieux du secteur offensif. Que ce soit Gonçalo Ramos qui est sur une excellente dynamique, ça c'est vrai. Mais Randal Kolo Muani, on l'attendra beaucoup plus. On aura nettement moins d'indulgence la saison prochaine. Ousmane Dembélé, on a évoqué le fait que c'était le meilleur passeur de Ligue 1, mais l'année prochaine, je pense qu'il aura le rôle de leader offensif. Il sera beaucoup plus attendu. Donc, notamment sur cette capacité à enchaîner les matchs en Ligue 1, sur cette capacité à être régulier, les joueurs du PSG seront particulièrement attendus dans cette capacité à se dire que sans Kylian Mbappé, on peut faire malgré tout un pas en avant et être de nouveau champion de France. Donc, c'est pour ça que ça va être très intéressant de voir comment le PSG va se redécouvrir de la même manière que le PSG devait se redécouvrir post Zlatan Ibrahimovic. Et à l'époque, ils avaient perdu le titre. Même si, faut contextualiser, Cavani avait été extraordinaire cette saison-là. Mais on voit bien que se refaire suite à un départ d'un joueur qui a été majeur, donc bon, même s'il n'est pas encore parti, et ça a fait, c'est quand même un septennat de Kylian Mbappé, ça ne sera pas non plus évident pour le PSG.
Welton, on va refermer la page Ligue 1 et ouvrir celle Ligue des Champions en restant au Paris Saint-Germain. On le rappelle, demi-finale à disputer de Ligue des Champions face à Dortmund. Le match aller sera mercredi au Signal Iduna Park en Allemagne. Et ça tombe bien que tu aies brièvement évoqué Gonçalo Ramos parce qu'on va se concentrer sur l'attaquant portugais qui a marqué 5 buts sur ses 6 derniers matchs avec Paris, qui égalise contre Le Havre samedi soir d'un très très beau but de la tête. Le paradoxe, c'est qu'il a joué 6 minutes sur la double confrontation contre le Barça et 0 en 8e de finale contre la Real Sociedad. Donc c'est vraiment un joueur mis de côté en Ligue des Champions, Gonçalo Ramos. Est-ce qu'il peut prétendre à plus ou beaucoup plus dans cette double confrontation contre Dortmund?
Gonçalo Ramos peut avoir une importance sur les 180 minutes, voire 210 minutes de la Ligue des Champions. Et pas nécessairement en partant en tant que titulaire lors de cette demi-finale de Ligue des Champions. Précisément parce que tu l'as évoqué depuis la Real Sociedad et même bien avant, j'ai référence à ce qui s'était passé lors des 30 dernières minutes contre Newcastle. Il y a une dynamique qui s'est installée offensivement avec Kylian Mbappé, Barcola et Ousmane Dembélé. C'est un trio qui est en train de développer des automatismes. C'est un trio qui est capable d'être décisif sur des doubles confrontations. J'ai référence à Barcola face à la Real Sociedad. J'ai bien référence à Kylian Mbappé qui, quoi qu'on en dise, c'est quand même 5 buts sur la phase éliminatoire de Ligue des Champions, meilleur buteur de Ligue des Champions. Et Ousmane Dembélé, on lui reprochait de ne pas marquer des buts. Il en a mis 2 face au Barça. Donc c'est un trio qui a développé des automatismes, qui est très compétitif, et c'est un trio qui s'est dégagé, qui s'est installé. Et la chance de Gonçalo Ramos, c'est que Luis Enrique, il a une réflexion de 180, voire 210 minutes. Et auquel cas, il va falloir que le banc soit quand même très compétitif. Et Gonçalo Ramos a les prérequis pour être ce joueur-là, ce joueur qui apporte notamment cette capacité à être déterminant en sortie de banc. Et c'est pour ça que c'est un joueur à considérer, pas nécessairement en tant que titulaire, mais par contre en tant que joker, parce qu'on l'a vu très souvent, la Ligue des Champions a souvent basculé, notamment grâce à des remplaçants. Et ça peut être quelque chose de très important.
Donc pour toi, ouais, vraiment, il n'y a aucune chance de voir un Ramos être titulaire contre Dortmund, parce qu'en fait, la question que je me pose, au-delà du système Luis Enrique et des états de forme du moment, parce que c'est vrai que le trio d'attaque il semble indéboulonnable, il y a peut-être une question de profil. Tu as peut-être plus vu jouer Dortmund que moi ou que certains de nos auditeurs. Est-ce que son profil physique de pur neuf peut être adapté à cette équipe-là plus qu'à une autre, à cette confrontation-là plus que dans une autre ou pas spécialement?
Après, c'est vrai que Luis Enrique est un entraîneur qui aime bien chambouler ses équipes, mais je pense que là, sur le sprint final, notamment en ce qui concerne la Ligue des Champions, il ne va pas changer de fusil d'épaule et il va rester sur le trio. Et même par rapport aux qualités du Borussia Dortmund, qui, je le rappelle, on l'avait déjà entrevu aussi bien au match aller au Parc des Princes, mais aussi lors du match retour en phase de poule des Ligues des Champions. C'est une équipe qui aime bien défendre très très haute, qui aime bien être très très agressive et qui est susceptible de laisser des espaces. Et quand on parle de laisser des espaces, c'est quand même bien plus adapté pour un Kylian Mbappé, pour un Barcola, pour un Ousmane Dembélé, que pour un Gonçalo Ramos qui s'épanouit, qui brille dans une équipe qui va s'installer dans les 30 derniers mètres adverses et qui va être davantage un attaquant de surface. Donc c'est pour ça que je pense que Luis Enrique va s'appuyer sur son trio titulaire, autant par le fait que ce trio titulaire est très compétitif, mais surtout par rapport aux qualités intrinsèques du Borussia Dortmund.
Tu as commencé à parler de la position de Dortmund, des espaces à exploiter. J'imagine que ça fait partie des clés tactiques majeures de cette rencontre. Elton, quels sont, selon toi, les principaux enjeux tactiques de cette rencontre?
Alors, les principaux enjeux, c'est déjà bonifier le ballon, parce que le Borussia Dortmund est une équipe qui, justement, a une approche qui, pour moi, est un peu risquée. Bon, même si au match aller, enfin, lors de la première journée, ils avaient une approche assez sécuritaire, mais par contre, au match retour, sûrement conditionné par le fait qu'ils étaient déjà qualifiés, ils avaient été beaucoup plus, entre guillemets, agressifs dans cette idée d'aller chercher haut le PSG. Clairement, ça va être ça, cette idée, bonifier le ballon et exploiter les espaces. Parce que moi, je pense que ça peut être un match susceptible d'avoir des espaces, même s'il ne faut pas négliger le caractère du match aller. Et ça va être quelque chose de très important. Ensuite, il y a un point qui va être très important, c'est comment le PSG va gérer notamment la capacité qu'a le Borussia Dortmund à mettre du nombre dans le dernier tir adverse. C'est quelque chose qui m'avait marqué, notamment lors du match retour face à l'Atlético de Madrid en quart de finale. Dortmund amène énormément de monde dans les 30 derniers mètres. Donc, il se découvre, avec notamment Madsen qui avait été déterminant, Brandt dans les demi-espaces. Et ça, c'est un point qui peut être très intéressant parce que on a vu que le Barça, face au PSG au match aller, avait notamment utilisé le jeu long pour ensuite exploiter les espaces. Le Borussia Dortmund, je ne pense pas qu'ils seront dans cette logique-là, c'est-à-dire s'appuyer que sur Füllkrug. Non, à côté de ça, ils vont essayer de mettre les latéraux très très haut, ils vont essayer de mettre Brandt dans les demi-espaces et forcer le PSG à reculer. Et si tu arrives à forcer le PSG à reculer, on sait que ça va renvoyer à quoi? Ça va renvoyer au fait que le PSG a une charnière centrale qui peut laisser des motifs d'inquiétude.
Ouais, une charnière qui prend des buts, on va terminer là-dessus. Le PSG est à 6 matchs de suite en encaissant au moins un but, et ils en ont pris 9 sur leurs 5 derniers matchs. Est-ce que c'est un aspect qui t'inquiète ou est-ce qu'ils vont automatiquement élever le curseur en Ligue des Champions?
C'est une inquiétude qui est légitime, très clairement, parce que même s'il y a une qualification contre le Barça, tu as quand même encaissé un but. Et ça, c'est pas négligeable, et ça veut dire qu'il y a une marge d'amélioration du côté du PSG. Marge d'amélioration qui est due au fait que si on se réfère à ce qui s'était passé au match retour face au Barça, la charnière Marquinhos-Lucas Hernandez, elle a très peu de vécu. Précisément parce que Lucas Hernandez a été très longtemps latéral gauche parce que Nuno Mendes était absent. Marquinhos, à un moment, a été blessé. Lucas Hernandez a été blessé. Donc, il y a eu très peu de vécu commun. Si tu veux, Arthur, on a eu davantage d'Agnaud, Beraldo, Lucas Hernandez et Marquinhos, mais pas Lucas Hernandez et Marquinhos ensemble. Donc, forcément, ils ont besoin de continuité. Je pense qu'ils ont moins de 10 matchs ensemble, donc ce qui est très très peu pour une charnière à ce stade de la compétition, et ça va être encore une épreuve supplémentaire face au Borussia Dortmund avec notamment un Füllkrug qui est sur une bonne dynamique. Donc logiquement, c'est un motif d'inquiétude pour le PSG, et Luis Enrique, je pense qu'il en est conscient, mais il va quand même les responsabiliser et leur donner de la confiance en se disant que même si tu devais prendre un but, ce serait pas rédhibitoire sur la double confrontation, mais attention quand même.
Attention quand même parce qu'effectivement Dortmund nous a donné des matchs spectaculaires, en tout cas un match retour spectaculaire contre l'Atlético de Madrid. C'est une équipe capable de marquer beaucoup de buts. Bon, on est très excités à l'idée de voir ce match aller en Allemagne mercredi. Merci beaucoup Elton pour ton analyse. Tu seras évidemment là avec nous lundi prochain pour voir ce qui s'est passé et se projeter sur le match retour. Bonne semaine à toi Elton.
Et bonne semaine également.
On enchaîne avec la Bundesliga et on retrouve notre spécialiste du football allemand, David Lortolari. Salut David, j'espère que le week-end a été bon, même si pour une fois on a eu plus de buts en Ligue 1 qu'en Bundesliga. C'est assez rare pour le souligner, on a été plus gâtés que vous. David, évidemment, on va se concentrer dans un premier temps sur Dortmund parce qu'il y a cette demi-finale de Ligue des Champions qui arrive entre le PSG et le BVB. Ce sera mercredi le match aller au Signal Iduna Park. Bon, on a déjà vu deux matchs entre les deux équipes, c'était en phase de groupe, David. La première question est assez simple. Est-ce que Dortmund a changé depuis cette double confrontation du début de saison?
Salut Arthur, oui, Dortmund a changé dans deux domaines au moins, sa structure générale sur le terrain. Il y a eu des évolutions évidemment aussi avec une satisfaction principale. J'ai envie d'en citer une, c'est le jeune Madsen qui était suspendu sur le match de ce week-end qui devrait être opérationnel contre Paris et qui est un renfort de cette saison, peut-être la plus grande satisfaction. Puis il y a aussi l'évolution d'un Sébastien Haller, forcément, qui a fait des étincelles par moment, qui a accusé le coup aussi à d'autres moments de la saison, avec des blessures, avec des rechutes physiques et mentales par rapport aux soucis de santé qu'il avait eu précédemment. Donc oui, Dortmund a changé, on ne retrouvera pas forcément le Dortmund des matchs de poule, surtout que, et je vais peut-être en terminer par là, Arthur, là où Dortmund a changé, c'est que en championnat, ça plafonne. Et par contre, en Ligue des Champions, on a l'impression d'un club qui prend quand même une autre envergure, une autre dimension collective et individuelle.
Ouais, tu as parlé de Madsen qui était arrivé donc au mercato d'hiver. C'était l'une des deux recrues avec Jadon Sancho aussi. Pour terminer sur les individualités, où est-ce qu'il en est Sancho dans son retour au niveau qu'on attend de lui? Est-ce que ce sera une menace très très forte pour Paris ou est-ce qu'on est encore un petit peu déçu de son apport en ce moment?
C'est l'une des principales menaces, forcément, parce qu'il se rapproche de ce qu'il avait montré lorsqu'il était à Dortmund précédemment, c'est-à-dire un joueur capable de délivrer énormément de passes, sinon décisives, du moins très dangereuses. Et puis, il a marqué un super but, le but de Dortmund contre le RB Leipzig, un but de génie, un but très inspiré. Donc oui, c'est un joueur qui se rapproche. Qui se rapproche, j'ai bien dit, de son meilleur niveau physique, il n'y est pas encore, et puis qui retrouve aussi un petit peu cette magie qu'il avait à Dortmund la dernière fois. Donc ça sera forcément l'une des principales menaces offensives, en l'occurrence pour le Paris Saint-Germain, ça c'est vrai.
David, tu m'as dit que Dortmund changeait un petit peu de visage en Coupe d'Europe. Vu de France et vu du PSG, on a quand même l'impression que ce tirage était un tirage abordable pour Paris. Est-ce que c'est présomptueux? Est-ce que en Allemagne, on estime que Dortmund a toutes ses chances contre Paris? Ou est-ce que, objectivement, c'est un tirage, et là je mets des très gros guillemets parce qu'on reste en Ligue des Champions, facile pour Paris, David?
Alors ça c'est une vraie question. Je crois qu'il y a quand même une différence de vision, effectivement, mais l'Allemagne se berce de l'illusion de retrouver l'épisode 2013 avec la finale en Angleterre entre deux clubs allemands. C'est théoriquement possible. Le Bayern, s'il sortait le Real, irait vers la finale, et Dortmund, s'il sortait le Paris Saint-Germain, irait également vers la finale. On veut croire à cela parce que, évidemment, on a constaté qu'il y avait quand même une bonne santé européenne des clubs allemands cette saison. Leverkusen étant aussi qualifié en demi-finale de Ligue Europa. Donc on veut croire à cela, je pense que c'est en partie une illusion. Mais c'est vrai que Dortmund bénéficie quand même, surtout sur le plan mental, psychologique, là pour la semaine qui arrive, bénéficie quand même de ce formidable bras de fer gagné contre l'Atlético de Madrid. Alors bien sûr, l'Atlético, ça n'est pas le Real, ça n'est pas Manchester City, ça n'est pas Paris Saint-Germain, mais ça a donné à Dortmund un gros, gros coup de boost, notamment sur le scénario, bien sûr, du match retour, où Dortmund a été en difficulté une première fois, a été rassuré, puis a été à nouveau en difficulté, puis finalement a gagné ce bras de fer à l'arrivée avec quand même beaucoup de panache. Donc je pense que c'est là-dessus que le staff et l'entraîneur va vouloir s'appuyer pour hisser. Pour sublimer ce collectif, parce que c'est vrai qu'en championnat, je l'ai répété souvent, il y a des équipes plus fortes en Allemagne. Stuttgart est plus fort, le Bayern est plus fort. On l'a vu encore ce week-end, Leipzig est plus efficace, plus saignant. Le Bayer Leverkusen a fortiori. Donc il y a un peu encore une fois, ce double visage. Tirage sans doute favorable pour le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain est meilleur. Je n'ai pas dit plus fort, mais il est meilleur. Mais Dortmund a prouvé encore récemment qu'il pouvait faire mieux que ce qu'il a montré ce week-end.
Bon, on va refermer cette page Borussia Dortmund pour ouvrir celle du Bayer Leverkusen qu'on vient de très brièvement évoquer en disant qu'ils étaient demi-finalistes de Ligue Europa. Effectivement, ils ont cette double confrontation à venir contre l'AS Rome avec le match aller en Italie ce jeudi. David, on va quand même parler de ce qui se passe actuellement. Leverkusen ce week-end a remonté un déficit de 2 buts en égalisant contre Stuttgart à la 96e minute. Le match précédent, égalisation à la 97e contre Dortmund. Et le match précédent, égalisation à la 89e contre West Ham. Leverkusen, toujours invaincu cette saison. David, je te laisse la parole pour trouver des qualificatifs et pour nous expliquer comment c'est possible. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois dans cette fin de match pour Leverkusen?
Oui, c'est très fort, c'est un peu métaphysique. Alors, on peut essayer de trouver des explications. J'en ai une à l'esprit, je vais y venir tout de suite. C'est l'entraîneur, bien sûr. Mais ce qui est fort, c'est que ce week-end, partons de la fin, on n'avait pas Granit Xhaka suspendu, le métronome du milieu de terrain en particulier. Et on n'avait pas Florian Wirtz qui est entré en troisième partie de match, dans le dernier tiers, parce que Xabi Alonso entendait le ménager, bien sûr, pour le match européen qui arrive. Donc c'était quand même deux des principaux maillons de la chaîne Leverkusen qui n'étaient pas là, et on n'a quasiment pas vu la différence. C'est ça qui est très très fort. Je ne sais pas quel est l'ingrédient dans la potion magique de Xabi Alonso sur sa stratégie, sur sa tactique, sur sa mise en place, pour qu'on ne voit pas quand deux joueurs de ce calibre sont absents. Donc ça, c'est très très fort. Après, effectivement, quand arrive la 80e minute, il y a des chiffres, des statistiques qui ont été établies avec plusieurs dizaines de points et de buts marqués en fait à partir de la 80e minute, donc à 10 minutes de la fin. On a la sensation, on retient son souffle et on se dit c'est le Leverkusen time. C'est-à-dire il va y avoir une équipe qui va garder son niveau d'intensité, son niveau de précision, alors que l'adversaire commence à peiner, commence à se recroqueviller. C'est ce qui s'est passé là avec Stuttgart, qui a été très bon, qui a été féroce. qui a été dur à manœuvrer, qui avait pris 2 buts d'avance, et on s'est dit, ah, 2 d'avance, ça va quand même faire beaucoup, et ça y est, on est à la sensation et la première défaite. Et puis quand le Bayern arrive à réduire l'écart, là, on se dit, il va y avoir tous les épisodes passés qui vont remonter dans l'esprit des joueurs de Leverkusen, pardon, de Stuttgart. Et puis, c'était Stanisic qui avait marqué la semaine dernière de la tête, un joueur défensif. C'est Robert Andrich qui est là pour faire les basses œuvres au milieu de terrain défensif aussi, qui marque là le but de la délivrance pour l'égalisation, qui a été vécu comme une victoire, Arthur, clairement, pour Leverkusen, 46 matchs sans défaite. L'impression maintenant, après ce match-là, encore plus qu'avant, que cette équipe est complètement indestructible cette saison, les explications, on peine à les trouver. Il y a une espèce de magie, il y a une espèce de confiance. Il y a un joueur qui a dit récemment, peut-être que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, l'entraîneur, en fait, quand il s'implique dans les séances d'entraînement avec nous, c'est lui le meilleur. C'est lui le meilleur, donc Xabi Alonso est encore peut-être le joueur qui peut dire à chacun comment faire, quel geste faire, où se placer, comment faire une passe précise. Et j'ai l'impression qu'il a emmené derrière lui tout ce collectif dans lequel, rappelons-le, il n'y a pas de très grande star. Ça aussi, c'est probablement une clé de cette réussite.
Tu l'as dit, David, 46 matchs sans défaite. Le bilan exact, c'est 38 victoires et 8 matchs nuls. On est à 2,65 points par match. C'est juste extraordinaire. Alors, certes, Leverkusen ne joue que la Ligue Europa, mais est-ce qu'avec ce bilan, est-ce qu'avec ce que tu nous racontes, avec les contenus qu'on voit, on peut affirmer que Leverkusen est la meilleure équipe d'Europe cette saison?
Oui, c'est la sensation que j'avais depuis cet hiver. J'ai eu l'occasion de le tweeter par-ci par-là sur des formules un peu hâtives et résumées, mais c'est la sensation qu'on avait et elle se vérifie. Là, il y avait quand même des échéances compliquées. Stuttgart, c'est la deuxième sensation de la saison en championnat, donc c'est une équipe qui veut aussi aller chercher la petite marche au-dessus. Peut-être aller titiller le Bayern. Maintenant, ce sera difficile. En championnat, ils sont troisième et le Bayern deuxième. Et Leverkusen, la sensation, encore une fois, qu'il y a toujours une solution. Quand ça n'est pas Boniface, l'attaquant qui avait brillé en début de saison en attaque, Patrick Schick a retrouvé un niveau correct. Si Patrick Schick ne marque pas, le Marocain Amin Adli autour de lui fait des différences. Les milieux de terrain offensifs, Frimpong à droite, Grimaldo à gauche, ont fait des étincelles aussi. Et puis en défense, tout le monde a hissé son niveau. Sur le continent africain, on est bouche bée devant l'Ivoirien Kossounou et devant le Burkinabé Tapsoba. Jonathan Tah a monté aussi son niveau, qui fait qu'il disputera l'Euro avec Nagelsmann et l'équipe d'Allemagne, c'est sûr. Un très bon Radetzky, gardien expérimenté dans les buts. Donc oui, équipe très complète, dans laquelle on a l'impression quand même, je le répète, que chaque joueur a pu hisser son niveau au-dessus de ce qu'on avait vécu jusque-là, à l'image de Xhaka, qui s'est relancé dans ce club et qui est devenu un milieu de terrain de grande envergure, international suisse. Voilà, on a cité plein de joueurs là, en plus des artistes comme Florian Wirtz, et vous avez une équipe qui amène du danger partout, qui est efficace partout, qui défensivement prend quand même peu de buts. Il y a un peu moins de buts marqués que le Bayern, de mémoire, mais globalement, vous avez cette équipe. Et en plus, allez, une dernière chose, le petit ressort psychologique contre l'AS Rome, éliminé la saison dernière en demi, en 2023. Donc il y aura un petit esprit de revanche aussi. Mais je ne crois pas que ça soit compliqué pour Xabi Alonso de motiver ses troupes à ce moment-là de la saison.
Effectivement, il reste peu de matchs et il y a quand même de grandes chances qu'on voit ce Leverkusen terminer invaincu, au moins en Bundesliga.
Au moins Bundesliga.
Ouais, exactement. On va évidemment continuer de suivre ça. Un tout petit mot pour terminer, David, parce qu'il y a aussi le Bayern Munich qu'il ne faut pas oublier. Le Bayern qui joue sa demi contre le Real Madrid, ce sera mardi. Où il en est, ce Bayern? Est-ce qu'il aborde cette demi-finale confiant, notamment porté par un Harry Kane qui continue d'empiler les buts?
Harry Kane, 35 buts désormais, alors qu'on a passé les 31 journées, donc plus d'un but par match. Harry Kane, c'est une sorte d'assurance tout risque un peu pour le Bayern. Il y a deux dossiers un peu embarrassants en ce moment. Un qui est un tout petit peu éloigné du terrain immédiat, c'est bien sûr la recherche active d'un entraîneur pour la saison qui vient. C'est compliqué parce qu'en plus, les supporters commencent à se dire que on aurait mieux fait de garder Tourelle. Donc il y a un peu des tourbillons autour de l'équipe. Et puis sur le terrain, des soucis pour les joueurs offensifs de couloir. Serge Gnabry, on imagine qu'il pourrait ne pas jouer. Leroy Sané a eu de vives douleurs au dos dernièrement et il lutte avec son corps, avec son physique. Kingsley Coman, absent jusqu'à l'Euro. Brian Saragossa, le jeune Espagnol venu de Grenade cet hiver qui n'a pas du tout la confiance de Thomas Tuchel. Donc ça fait quand même beaucoup à force. Le Bayern a de la ressource. Le Bayern a trouvé quand même une stabilité défensivement avec Dyer et De Ligt. Mais on compte beaucoup sur un Harry Kane, on compte beaucoup sur les éclairs individuels. Donc c'est peut-être à l'avantage du Real qui, lui, a-t-on l'impression quand même vu d'Allemagne, a un collectif plus robuste et plus fort.
Bon, merci David pour toutes ces précisions, toutes ces analyses. Évidemment, le foot allemand va nous intéresser de très près sur cette fin de saison et sur les jours qui arrivent. On sera très curieux de débriefer ce match aller avec toi. La semaine prochaine, merci beaucoup David. Passe une bonne semaine de foot européen et puis on se retrouve très vite.
Bonne semaine à tous, ciao!
On termine ce Tour d'Europe en Première Ligue. On a parlé Ligue des Champions. On va maintenant parler de la course effrénée au titre de l'autre côté de la Manche avec notre spécialiste du foot anglais, comme chaque semaine, Philippe Auclair. Salut Philippe, encore un week-end de Première Ligue très riche. On se répète chaque semaine. On va commencer par ce qui s'est passé samedi entre West Ham et Liverpool. Match nul de partout. Bon, cette fois, on peut le dire, Philippe, ou tu vas peut-être me dire le contraire, je ne sais pas, mais la course au titre semble terminée pour les Reds qui, en plus, font parler d'eux pour ce petit conflit qui oppose Jürgen Klopp à Mohamed Salah.
Ouais, c'est une fin de saison vraiment triste ou nette pour les Reds. On sait qu'ils ont vraiment poussé sur leurs ressources avec tous les problèmes de blessures qu'ils ont eus, l'annonce du départ de Jürgen Klopp, etc., etc. Mais on se disait malgré tout, ils ont déjà un titre, ils ont la Coupe de la Ligue, ils l'ont gagné cette année. On se disait malgré tout, ça va quand même le faire. Ils veulent que Jürgen sorte par la grande porte. Bon, on a vu ce qui s'est passé en Europa League avec l'Atalanta, la catastrophe. Et on voit ce qui se passe en Première Ligue maintenant, où de nouveau à West Ham, ça a été du grand n'importe quoi. Ils auraient dû gagner ce match, je ne sais pas combien de fois, mais une fois de plus, des attaquants qui balbutient, des choix de Jürgen Klopp qui interpellent. Et puis évidemment, cet incident sur la ligne de touche, alors que Mohamed Salah s'apprêtait à entrer en jeu aux côtés de Darwin Núñez d'ailleurs. Une confrontation d'un type un petit peu inhabituel. Le fait qu'un joueur par moment ait des mots avec son entraîneur lorsque on le fait sortir du terrain et qu'on lui demande d'aller se rhabiller, de mettre son survêtement, ça arrive et c'est logique et c'est normal et c'est humain. Là, c'est autre chose. Il entre en jeu. Jürgen Klopp lui dit quelque chose à l'oreille. Ce qu'il lui a dit, nous ne le savons pas. Et Mohamed Salah réagit de manière très très vive. Et l'échange, d'ailleurs, ça n'a pas été quelques secondes. Hein, tu as vu, c'était quasiment une minute entre les deux hommes. Ensuite de quoi, moi j'avais des copains qui étaient en zone mixte à la sortie du stade de West Ham, qui ont essayé de toucher deux mots avec Mohamed Salah, qui leur a répondu, écoutez les gars, si je parle, je vais mettre le feu. Et ce qui
Ambiance.
contredisait un petit peu les propos de Jürgen Klopp, selon qui les deux hommes s'étaient parlé dans la tranquillité du vestiaire, enfin qui ne devait pas être si tranquille que ça, j'imagine, dans cette occasion, et que le problème était réglé. En fait, non, le problème n'était pas réglé. Ce qu'a dit Klopp, nous ne le savons pas, nous ne le saurons sans doute jamais, au moins jusqu'au moment où Mohamed Salah ne sera plus un joueur de Liverpool. Et puis, bon, ça c'était tout un symbole, hein, à la fois sur le terrain, le fait que Mohamed Salah, même s'il a marqué encore plus de 20 buts cette saison, ne l'oublions pas, hein, quand même, n'est pas tout à fait dans la meilleure forme en ce moment, c'est moins qu'on puisse dire. Le fait que les Reds patinent, qu'il y a des problèmes en défense, qu'il y a des problèmes en attaque, et tout d'un coup, on a l'impression que cette magnifique équipe, qui est quand même l'une des plus grandes équipes que la Première Ligue ait jamais connue, est en train de s'effilocher devant nos yeux. On sait déjà qui va remplacer Jürgen Klopp. Maintenant, on le sait, hein, c'est pas Xabi Alonso, c'est pas De Zerbi, ce sera Slot, donc l'entraîneur de Feyenoord. On ne parle que de lui dans les gazettes anglaises aujourd'hui. Enfin, ça fait une semaine qu'on en parle. Et puis tout ça se passe d'une façon. Moi, je lui dis bonne chance parce que très honnêtement, ce que l'on voit en ce moment, très honnêtement, tu sais, ça me fait penser à la fin de règne de Sir Alex Ferguson. À cette différence, Alex Ferguson avait gagné le titre cette saison-là, mais son équipe était à peu près dans la même position, à savoir que c'était une équipe vieillissante, où il y avait beaucoup de changements à opérer. On arrivait à la fin d'un règne qui avait été très long. Celui de Klopp a été très long, au passage. Ça va faire 8 ans, hein. Donc, bonne chance à son successeur. Mais c'est des images vraiment tellement tristes parce que Salah nous a donné tellement de bonheur, et je pense en particulier pour les supporters de Liverpool. Nous a donné tellement de bonheur au cours des années qu'il a passées à Anfield. Jürgen Klopp est peut-être le plus grand entraîneur que j'ai jamais connu Liverpool, peut-être avec Bill Shankly, mais on pourrait dire peut-être Jürgen Klopp est le plus grand. Et que ça se termine de cette façon-là, franchement, c'est indigne. C'est indigne des hommes en question, c'est indigne du club, mais malheureusement, on va revenir, je pense. On en avait parlé, je pense, à l'époque, cette décision prise par Jürgen Klopp d'annoncer son départ très tôt cette
Exactement.
saison. Et on se posait la question, est-ce que ça va avoir,
Ouais.
quel effet ça va avoir? Est-ce que ça va avoir pour effet de fédérer? Ou est-ce que si jamais il rencontre un problème, ça va avoir l'effet contraire? Ben, je crois qu'on donne la réponse à cette question.
On a pourtant l'impression qu'on avait une réponse qui était tout autre dans les matchs, les semaines qui avaient suivi, parce qu'il y avait cette espèce
Complètement.
d'union sacrée, même les joueurs en zone mixte qui disaient voilà, on veut le faire pour Jürgen Klopp, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui s'est cassé dans le vestiaire ou ça concerne vraiment que Mohamed Salah et personne
Ben,
d'autre?
je ne pense pas que ça ne concerne que Mohamed Salah. Je veux dire, les résultats récents et la façon dont cette équipe a perdu, par moments, c'est une équipe qui a toujours été chaotique, mais dans le meilleur sens du terme. Là, elle est chaotique dans un autre sens, quand on voit notamment la façon dont elle défend en ce moment, c'est catastrophique. Je pense qu'il y a l'un des plus gros problèmes, c'est un problème tout simplement physique. C'est une équipe qui roule sur la jante. Et un problème mental, parce que là aussi, elle roule sur la jante. Ne pas oublier que Liverpool a eu de gros problèmes de blessures tout au long de la saison, que c'est un effectif qui avait été quand même considérablement remodelé à l'intersaison dernière, avec un milieu de terrain complètement inédit, qu'il y a des joueurs qui se sont tout de suite imposés, qu'il y en a d'autres qui ont peut-être eu un petit peu plus de, je dirais pas de problème, mais qui prennent un peu plus de temps, que l'équilibre n'a pas encore été totalement trouvé, et que lorsque physiquement, tu vas plus bien, et que mentalement, tu flanches un petit peu, ben voilà le résultat. Comme c'est une équipe qui marche à l'émotion, qui marche à la passion, qui marche à l'engagement, qui marche à l'énergie, quand ces qualités viennent à manquer, le résultat, encore une fois, c'est une équipe, souviens-toi, c'est une équipe qui peut prendre 7 buts dans un match. C'est ça, Liverpool. Mais à côté de ça, c'est une équipe qui a tout gagné, en fait, depuis que Jürgen Klopp est arrivé. Puis bon, là, c'est une fin de règne bien triste, et il est fatigué, hein. Je ne sais pas si jamais tu l'as écouté, mais tu as vraiment le sentiment qu'il n'a qu'une hâte, c'est que cette saison se termine maintenant. Alors que mathématiquement, ils sont à 75 points, ils ont encore 5 points, ils ont 5 points de retard, mais ils ont encore 3 matchs à jouer, donc 9 points, donc mathématiquement, c'est encore jouable, mais tu n'entends même pas, on va faire tout ce qu'on peut et puis on verra bien. Non, c'est même pas ça. Maintenant, le titre, c'est entre Arsenal et Manchester City. Nous, on est hors course. La seule consolation, c'est que, bon, ils ont l'assurance de disputer la Ligue des Champions l'année prochaine, qui sera quand même un joli cadeau pour ce successeur.
Bien sûr, de bonnes bases pour reconstruire. Tu l'as dit, la course au titre, elle est entre Arsenal et Manchester City. Arsenal en tête avec un match d'avance. Deux équipes qui vont très bien, qui ont toutes les deux gagné ce week-end. Alors, on va commencer par Arsenal parce que c'est eux qui nous ont le plus marqué, ce derby évidemment du nord de Londres, complètement fou. D'abord, Tottenham s'est fait piétiner par Arsenal, puis Arsenal s'est fait très peur. Raconte-nous un petit peu cette rencontre, Philippe, pour ceux qui
Écoute,
l'auraient raté.
alors écoute, moi j'ai un petit peu de mal parce que le score à la mi-temps est de 3-0. Mais si tu ne sais pas en faveur de quelle équipe et que tu as regardé les images, ou en tout cas que tu as une petite idée de ce qui s'est passé sur le terrain, tu dis que bah, Tottenham a très bien joué, que tout compte fait 3-0, c'est pas mal payé. En fait, c'est 3-0 pour Arsenal, qui a livré l'une des pires mi-temps, je pense, de sa saison à White Hart Lane, Mark II, contre Tottenham, qui s'est créé des occasions avec mon Romero, qui a deux énormes occasions, un but refusé à Mickey van der Ven pour un hors-jeu d'un orteil ou peut-être d'un quart de fessier de Gabriel, on va dire ça comme ça. Mais malgré tout, cette équipe d'Arsenal qui est absolument impitoyable sur les coups de pied arrêtés, là on l'a vu, le but contre son camp de Højbjerg, la tête de Kai Havertz, qui au passage est maintenant un titulaire indiscutable dans cette équipe d'Arsenal, ce qu'on n'aurait pas dit au mois de janvier. Ça fait donc 20 buts maintenant marqués sur coup de pied arrêté, ou à la suite de coup de pied arrêté par rapport à Arsenal, ce qui est absolument phénoménal, hein. Et puis ce contre superbe mené par Kai Havertz, qui est d'une transversale digne de Martin Ødegaard, ce qui est dire quelque chose. Tout Bukayo Saka, première touche de balle absolument parfaite, il est face à Ben Davies. Crochette vers l'intérieur, on sait ce qu'il va faire à la Arjen Robben, hein. Je crochette à l'intérieur, je me mets sur mon pied gauche et j'enchaîne avec une frappe. Et je mets ça dans le petit filet. Et ça fait 3-0. Mais très honnêtement, ça n'avait aucun sens au vu de ce qui s'était passé, parce que dans le jeu, Tottenham avait le ballon, était très agressif dans la récupération. Et une chose que je vais te dire, c'est que moi, Tottenham m'a vraiment impressionné. dans ce match. C'est parce qu'ils se retrouvent menés complètement contre le cours du jeu 3-0. Beaucoup d'autres équipes se seraient dit, tout est contre nous, ils auraient levé le pied, etc. Pas du tout. Ils se sont battus jusqu'à la dernière seconde. Ils sont revenus dans le match après une erreur invraisemblable de David Raya qui donne le ballon à Romero, le défenseur central qui ne sait pas pourquoi était resté en position d'avant-centre et qui marque dans un but quasiment vide. Ensuite, on a ce penalty accordé pour une faute de Declan Rice, mais il y a encore quoi, 7-8 minutes à jouer à ce moment-là, voire 10. Et ça a chauffé, 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 mais Arsenal a tenu. Et Arsenal a tenu comme Arsenal n'avait pas su tenir l'année dernière face à West Ham et à Liverpool. Dans ces deux matchs, ils avaient deux buts d'avance. Dans ces deux matchs, ils avaient perdu des points. Là, ils se sont accrochés et ils ont célébré cette victoire comme ça se devait avec leurs supporters. Mais encore une fois, Arsenal sort, je dirais pas grandi, mais on sort convaincu du fait que c'est une équipe totalement mature, totalement prête pour être championne, si jamais la possibilité en est offerte par Manchester City, et qui en sera digne. Et d'un autre côté, une équipe Tottenham qui m'a franchement épaté. Donc, à qui il manquait beaucoup de joueurs en plus. Donc, un super derby du nord de Londres, comme d'habitude. Hein. C'est des matchs qui donnent toujours des spectacles incroyables. Mais Arsenal, bon, vrai chapeau, ils sont toujours maintenant en tête. Et ils ont toujours cet avantage de faire la course en tête. Ça veut dire que chaque fois, Manchester City doit répliquer. Et je vais te dire un truc. Je sais qu'on n'a pas énormément de temps qui nous reste. Mais très honnêtement, Manchester City et Nottingham Forest, ça n'a pas été ça. Hein. Vous regardez le score, vous vous dites. 2-0, pas de problème, ils ont déroulé. Ouh là 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 là! Si jamais Chris Wood s'était souvenu qu'un pied s'était fait pour taper dans le ballon et pas au-dessus ou à côté, le 2-0 serait pu être pour Nottingham Forest. Ça n'a
C'est
pas
vrai
été le cas. Bon,
qu'il
donc
en
le
rate
système
une
va continuer.
belle.
Oh mon Dieu!
Il en rate
Il en
enfin, au
rate
moins
deux
une, au moins une.
énormes!
Ouais, moi
Il
je.
en reste deux énormes. Mais bon, City a fait le boulot comme Arsenal a fait le boulot. Et donc, on continue joyeusement avec une nouvelle soirée de championnat qui nous attend. On n'en finit plus. Hein. Là, c'est
Ouais, et
le marathon se termine par un sprint.
ce qui est très intéressant dans cette fin de marathon, c'est qu'on a beaucoup parlé de calendrier qui était très difficile pour Arsenal. Là, ils ont quand même balayé Chelsea, battu Tottenham. Finalement, au regard des derniers matchs qui restent aux deux équipes, donc Bournemouth, Manchester United, Everton pour Arsenal et les Wolves, Fulham, Tottenham et West Ham pour City, ça s'est quand même rééquilibré avec en plus ce petit avantage psychologique pour Arsenal, même si l'avantage au point, il est pour City.
Oui, je suis d'accord avec toi. Et alors attention à Bournemouth, parce que tu as vu les résultats de Bournemouth cette
Oui,
saison,
oui, oui.
c'est remarquable. C'est leur meilleure saison de tous les temps en Première Ligue, c'est tout simplement bien. Ça joue très bien. Dominic Solanke dans la forme de sa vie. Donc attention, ce n'est pas un petit match, ce sera un match compliqué. Manchester United, je pense, pensera à sa finale de Cup. Et vu la façon dont ils jouent en Première Ligue en ce moment, si Arsenal ne gagnait pas, là, franchement, il y aurait quand même un problème. Everton sera sans doute sauvé. Sera sans doute sauvé le dernier jour de la saison et aura fait la fête pendant une semaine avant. Donc, en plus de ça, ils savent faire la fête à Everton. Hein. Donc, je pense que de ce côté-là, ça va. Mais c'est vrai que pour Manchester City, il y a un match en particulier. On se demandait quand il aurait lieu. C'était le match en retard contre Tottenham à Tottenham. Et ce match-là, c'est le 14 mai. Le
Oui.
mardi 14 mai. Et ils seront les seuls à jouer ce jour-là. Et le titre se jouera sans doute. À White Hart Lane, j'appelle toujours ça White Hart Lane parce que c'est sur le même site, hein, même s'il n'y a pas encore de nom officiel pour le stade. Et si ça se trouve, c'est peut-être Tottenham qui donnera le titre à Arsenal, tu t'imagines?
Le clin d'œil serait
Ah, ce serait
magnifique, mais en tout
fantastique,
cas.
surtout que nous venons de célébrer au passage la Saint-Totteringham. Je ne sais
Ouais.
pas si tu connais cette fête.
Non, tu me l'apprends.
Totteringham, donc c'est Teddy Sheringham et Tottenham, c'est un mot valise. C'est le jour de la saison. C'est le jour de la saison quand Tottenham, mathématiquement, n'a plus aucune chance de terminer devant Arsenal au classement du championnat d'Angleterre. Nous avons donc fêté la Saint-Totteringham à White Hart Lane ce week-end.
Bon, en tout cas, la date de ce Tottenham City, elle est enregistrée, elle est
14 mai.
cochée. On a hâte de voir ça. Merci Philippe pour toutes ces analyses. Et puis on se retrouve très vite parce que, comme on le dit tous les lundis, cette course au
Oui.
titre, elle va nous occuper jusqu'au bout, c'est sûr et certain. Bonne semaine Philippe. Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On vous souhaite une très belle semaine de football européen. Ce sera dense, mais il y aura aussi du tennis sur Eurosport.fr et les antennes d'Eurosport avec notamment la suite du Masters 1000 de Madrid. Voilà, régalez-vous et on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.